Everything is better on a boat, and your vacation is no exception. This year, experience the world's most beautiful destinations aboard your own private yacht charter with The Moorings. Our fleet of modern, custom-designed yachts is just one reason we were recently voted Best Caribbean Yacht Charter Company by readers of Caribbean Journal. So when you next explore the Virgin Islands, the Bahamas, or elsewhere, don't accept anything less than The Moorings. Your vacation time is precious, so make the most of your freedom on the water. Book your perfect charter at moorings.com. Nothing less than The Moorings.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Bouton d'or par Sévignien Lapointe. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Fanny. Bouton d'or par Sévignien Lapointe. Eh bien, Reine, comment vont vos confitures? Pas mal. Et vous, Sire, comment vont vos alouettes? Parfaitement. Les personnages qui se questionnaient ainsi étaient effectivement occupés, l'une à faire de la gelée de groseille, l'autre à faire rôtir des alouettes à côté d'un plat de petits pois verts de Clamart, lesquels fleurissaient déjà à cette époque reculée. L'homme avait devant lui un tablier de toile blanche qui s'étalait avec emphase sur une culotte courte de velours bleu. Il avait aux jambes des bas chinés. Sur ses souliers carrés luisaient de belles boucles d'argent. Cet homme était joufflu comme un chérubin, rouge comme une pomme d'api. Quant à son ventre, il pointillait de même qu'une topinée dans un pré. Pour son visage, c'était une grappe de plan de roi, sous un bonnet de coton dressé sur sa tête majestueuse, comme la flèche d'une cathédrale, et noué d'un joli ruban rose à bouffette. Tel était le bon roi Brabançon. Cette petite femme, riante comme une cerise, aux joues rondes veloutées comme une pêche de Montreuil, chaussée de pantoufles vertes, vêtue d'un cotillon à raies jaunes et bleues, retroussée de chaque côté par une cordelière d'argent et d'or, était Madame Brabançon, femme du roi la reine. Comment un roi en était venu au point de se faire cuisinier et une reine confiseuse, voilà ce qui doit étonner et étonnera sans doute, et c'est là ce qu'il est impossible de ne pas expliquer. Le roi, qui était fort aimé, les rois l'étaient encore en ce temps-là, la reine qui était adorée, les reines le sont toujours, régnait avec douceur sur le peuple naïf partant soumis. Au bout de 10 ans d'un règne sans nuages, le roi et la reine s'avisèrent de se trouver fort à plaindre. La raison de ceci, c'était que Dieu ne leur envoyait pas d'héritier. Les savants et les saints avaient été consultés à ce sujet, mais toujours vainement. La science et la prière avaient échoué au laboratoire comme à l'église. Le peuple qui pensait ne pouvoir vivre sans maître, partageait les soucis domestiques de ses bien-aimés souverains. Le royaume était plongé dans le désespoir. Cependant, un brave moine, ami de la maison et confesseur de la reine, avait fini à force des jeûnes et des mortifications de toutes sortes par toucher la bonté divine. Le roi Brabançon eut un héritier. Tout le pays fut en liesse. On tira beaucoup de fusées et de pétards. On brûla un nombre de chandelles sur les fenêtres. Même il y eut des concerts et des danses publiques. Les dames des Halles envoyèrent une députation au château. Une orangère improvisa pour la circonstance un compliment dans lequel elle disait « Jour de ma vie, chère dame, vous n'étiez jusqu'ici qu'une reine estimée Morgane. Il ne vous restait plus que d'être une bonne mère, ce qui est bien plus allé. En aimant votre marmousée, vous saurez bien mieux ce qui manque au nôtre. Voilà pourquoi le pauvre monde se réjouit de votre maternité. Votre bonheur fait notre espoir. À présent, madame, permettez-moi de vous embrasser. » La reine embrassa la grosse orangère et chacun se retira le cœur rempli de la plus douce jubilation. Un savant, nommé Hermann et allemand, tous les savants sont allemands, trouva que le discours valait bien un fromage sans doute. Pourtant, il aurait bien voulu n'y pas voir figurer le mot marmousé appliqué au rejeton royal. Autre était l'avis de la reine qui le trouvait plaisant. Le moine fut comblé de cadeaux de toutes sortes, ce qui déplut fort au savant qui pensait avoir plus fait pour la royale génitue que toutes les paroles marmottées par un pauvre moine dans un obscur offertoire. Mais pour les rois comme pour les particuliers, la vie n'est cœur et malheur, dit le sage. Ce qui fut une cause de joie pour le bon roi Brabançon et la reine, ne tarda pas à leur devenir un sujet de peine. L'enfant, né vivace, en grandissant devint tout à coup indifférent à toutes choses. Les jouets dont on l'entourait le fatiguaient. Les mets étalés à profusion sur la table royale ne lui inspiraient que dégoût. Il était sans gaieté comme sans appétit. Il était malade. La véritable maladie du prince, c'est qu'on avait entravé la vie en son cœur à force de prévenir ses volontés. Le prince n'avait plus même la force de rien désirer. Et le peuple, qui s'est donné un nom à toute chose, avait nommé l'héritier présomptif, prince Dolan. Dolan, cependant, ne manquait pas d'intelligence. Il avait du jugement. Cependant, il s'ennuyait à cause de cela, peut-être. Le vrai malheur du jeune homme encore, c'était qu'il avait une âme de montagnard dans la poitrine d'un prince. Il manquait d'air de liberté, l'étiquette le tuait. Ses nobles parents, le voyant ainsi dépérir, faute d'appétit, s'imaginèrent qu'un horrible complot était dressé contre les jours de leur cher enfant, que des conspirateurs indignes avaient gagné les cuisiniers pour mêler un poison lent et funeste aux aliments du prince. Plein de cette préoccupation touchante, le bon roi Brabançon, ainsi que la reine, ne voulut plus que personne se mêlât de leur cuisine et résolurent de préparer eux-mêmes les aliments du royal héritier. Voilà pourquoi nous voyons le roi Brabançon et sa femme soufflant les fourneaux, tournant les broches et remuant les bassines. On rira qui voudra. Cette folie en vaut bien une autre. Les pères de famille seront de notre avis. Enfin, mes confitures sont parfaitement réussies, s'écria la petite reine toute joyeuse. Mes alouettes, que béni soit le ciel! Vous ont une couleur à donner envie à un aveugle et un goût à donner appétit aux morts, dit à son tour le roi, tout en se léchant les doigts et se frottant l'abdomen. On dressa la table avec gaieté. Le prince Dolan vint s'y asseoir d'un air profondément nonchalant, et malgré tous les soins que sa pauvre mère et que son excellent père avaient mis à préparer le repas, le prince ne put goûter à rien. Le savant consultait de nouveau, répondit par une longue dissertation sur la construction de l'estomac, sur la nécessité de posséder de robustes poumons, ces puissants ressorts de la vie, disait-il, sur la richesse ou la pauvreté du sang, sur les tempéraments sanguins ou nerveux, les lymphatiques et les bilieux. Toutes choses fort savantes sans doute, mais qui ne concluaient à rien quant à la santé du prince Dolan. Le moine haussait les épaules. Dolan bâillait. Le roi Brabançon et la reine contemplaient leur cher enfant avec inquiétude. Le siège de la maladie est là, continuait le docteur en touchant du doigt la poitrine du prince. Le moine se prit à sourire du sourire de l'incrédulité et dit: Pardon, mon opinion à moi est que la maladie est autre part, et il indiquait le front pâli du prince. « Je vous comprends, mon père, l'âme !» Et il se mit à ricaner bruyamment. « Oui, messieurs, l'âme !» fit le moine avec le respect qu'il puisait dans son humilité. « Amen !» s'écria le docteur avec impertinence. Puis il ajouta, rouge de colère. « Ignorance ! Mépris de la science ! Dire qu'il y a dans le monde des milliers d'êtres qui vivent comme des animaux, ignorants de la maladie et de la santé !» On boit, on mange sans se douter même qu'on est un peu plus bas que la brute qui paie ou qui rampe, de même que Bouton d'Or qui habite là-bas la grande forêt avec un animal, un vieux sauvage qu'elle nomme son père. Ainsi soit-il, fit le moine, et prononçant mentalement ces paroles de l'Évangile, heureux les simples, il sortit. Il est des noms dont la consonance mystérieuse porte en eux ces charmes singuliers que l'on éprouve sans se l'expliquer, qui nous fait rêver sans y réfléchir, que l'on admire sans les connaître. Au nom de Bouton d'Or prononcé par Hermann, Dolan avait levé la tête et porté sur le docteur un regard profondément interrogateur. Le savant avait fait semblant de ne pas comprendre et Dolan était retombé dans sa somnolence habituelle. La nuit vint, on se mit au lit. Et le bon roi Babançon disait à sa femme, « Notre garçon est bien malade, chère femme. » La reine pleurait. « Pourtant, dit-elle, je crus qu'il allait parler quand le docteur a prononcé le nom de Bouton d'Or. »« Bouton d'Or, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le roi. « Une petite brute, répondit la reine, du moins à ce que dit le savant. « Ah oui, le savant, fit le roi, qui commençait à perdre confiance dans l'infaillibilité de la science. » À peine faisait-il jour qu'un jeune homme, d'ordinaire paresseux, descendait un peu plus vite que de coutume les marches du palais et s'avançait d'un pied moins lourd vers les vieux coteaux boisés situés à plus d'une lieue de la ville. C'était Dolan que le nom de Bouton d'Or avait empêché de dormir et qu'une vague lumière attirait sur ses chemins comme un voyageur engagé dans une nuit sombre. Dolan avait eu soin de revêtir un habit de paysan pour échapper à l'œil vigilant des gardes comme au regard curieux du peuple. Il voulait être seul. Il avait donc mis la veste gros bleu à pans carrés, le gilet rouge, les grandes guêtres blanches et un bâton de cornouiller à la main. Il s'était mis en route. Comme il gravissait la montagne, une jeune fille de 15 à 16 ans, svelte comme un lit, vive comme un oiseau, légère comme une biche, se dirigeait vers une petite source entourée d'herbes fraîches et de petites fleurs rouges et bleues, ombragées de bouleaux qui miraient dans son onde claire le front verdoyant et penché. La jeune fille avait pour tout vêtement une pièce de lin jetée sur ses épaules d'une blancheur de neige et ceinte à la taille avec les branches du gui de chêne. Ses grands yeux mobiles, un peu inquiets, d'un bleu sombre, semblaient inondés de flammes et de tendresse. Mais ce qu'elle avait surtout de remarquable, c'était sa chevelure, d'une abondance, d'un bouclé et d'une couleur étrange. Ses cheveux pour les tons ressemblaient à ces petites fleurs vives de près qui croissent sur une tige légère et qui semblent emprunter leur éclat à l'or pur. Son père, en comparant l'enfant à cette fleur agreste des prairies et des bois, avait fini par la nommer Bouton d'Or. En effet, la charmante enfant ressemblait ainsi à la fleur de ses noms, si connue des petites filles et des jeunes garçons. Comme elle avançait vers la fontaine pour épuiser de l'eau dans une cruche de grès, Dolan apparut inopinément de l'autre côté et se trouva ainsi à peu de distance de la jeune fille. Dolan la salua avec tristesse. Bouton d'Or répondit au salut du prince par une révérence fort enjouée. « Mademoiselle, bien matinale, dit Dolan en lui adressant la parole. Pas plus que vous. « Et les oiseaux étaient réveillés avant moi, » répondit Bouton d'Or en plongeant sa cruche dans l'eau claire. Puis, se relevant avec agilité, elle s'enfuit à travers les broussailles. Dolan arriva aussitôt qu'elle en face d'une habitation de forme bizarre. C'était une sorte de hutte faite en cône et terminée par une ouverture d'où s'échappait la fumée. Cette habitation était faite de bois puissamment enchevêtré et bâtie avec de la glaise. Une paille épaisse lui servait de toiture. Les murs étaient d'une nudité sauvage. Seulement, au-dessus de la porte, exposée au midi, figurait une énorme tête de loup. Dolan resta immobile au seuil de la porte, n'osant le franchir. Bouton d'Or lui fit signe d'entrer et lui offrit une tasse de lait de chèvre qu'il but avec un plaisir extrême. La jeune fille lui dit, « On me nomme Bouton d'Or, et vous ?» lui demanda-t-elle. « Comment vous nomme-t-on ?»«
Je me nomme François, » répondit Dolan.
Eh bien, monsieur François, vous avez un bon visage. Vous me plaisez. Si vous voulez revenir demain, nous irons cueillir des violettes. Dolan revint le lendemain et les jours suivants, tantôt pour cueillir des fraises, des noisettes ou des fleurs, sous un prétexte ou sous un autre, mais il revenait toujours. Si bien que la reine Brabançon put remarquer que son fils avait moins de tristesse dans les yeux et que ses joues si pâles reflétaient quelque éclat. C'est qu'en effet Dolan avait une petite flamme au cœur, allumée au regard éclatant de boutons d'or. Depuis ces jours, un changement sensible s'opérait dans la santé du prince. Le savant ne manquait pas d'attribuer ce miracle à certaines herbes dont il avait composé un breuvage que le prince ne buvait pas. Un jour, Dolan, s'étant levé plus tôt qu'à l'ordinaire, se dirigea comme de coutume vers la source bien-aimée. Le soleil se levait à l'horizon dans des flots de nuages orangés. Il rêvait à l'éclat d'un spectacle qu'il n'avait jamais vu, à ses parfums qu'il n'avait jamais respirés, à ses concerts charmants qu'il ignorait. Pour la première fois de sa vie, Dolan se sentait heureux quand il entendit une voix qui disait à quelques pas de lui « Coule, petite source des bois, pour rafraîchir de tes eaux pures la poitrine du prince Dolan qui est malade. Chantez, oiseaux, pour égayer un peu l'âme de ces chers princes qu'on dit si tristes. Brillez, feu du ciel, élève-toi, soleil, azur, élargis-toi pour apporter aux yeux sombres du prince Dolan cette fleur de sérénité, ce vif éclat qui rend les mères tranquilles sur la santé de leurs enfants. » Et il sembla au prince que la source coulait plus vive, que les oiseaux avaient plus d'harmonie et les cieux plus de clarté. Il se glissa à travers les broussailles pour voir quel était l'ange du ciel qui formait de si doux vœux. Sa surprise fut bien grande lorsqu'il le vit. Cette voix était celle de Bouton d'or. La jeune fille avait alors sur la tête une couronne de roses sauvages où se mêlaient le bleuet des champs et le rouge coquelicot. Le prince s'approcha d'elle avec une émotion dont il ne se rendit aucun compte. Bouton d'or, selon son ordinaire, offrit au prince une tasse de lait de chèvre. Le prince l'accepta et lui dit « Vous connaissez donc le prince Dolan ?» Elle répondit « Moi, pas du tout. Pourquoi faites-vous des vœux pour sa santé alors ?»« Parce que papa me l'a recommandé. Votre père le connaît donc ?»« Non, mais mon père aime le roi. »« Ah, parce que le roi est bon, généreux, et qu'il chérit son peuple. » Qu'a-t-il reçu du roi à votre père? Rien. Alors, pourquoi l'aime-t-il? On ne peut vouloir du mal à ceux dont tout le monde dit du bien. Mon père et moi, nous faisons des vœux comme tout le monde. Le peuple rend en bénédiction ce que les rois font pour l'humanité, aurait pu ajouter la petite causeuse. Elle se contenta de soupirer. Ne vous ennuyez-vous pas dans cette grande forêt où vous vivez seul? Demanda Dolan. « Je n'échangerai point nos bois contre les belles villes, » répondit Bouton d'or. « Pourtant, si on vous offrait un palais, je préfère notre simple cabane. Pourtant, si votre père voulait habiter la ville, je ferais la volonté de mon père, mais sa résolution est de finir ses jours ici. » Dolan soupira à son tour. Un chien s'élança dans la cabane, tout harassé de fatigue. Après avoir léché la main de Bouton d'or, il alla se blottir dans un coin. « Voici mon père qui revient, » fit la jeune fille en s'élançant sur la porte. Dolan n'avait jamais rencontré le père de Bouton d'or. Aussi eut-il un moment d'inquiétude. De quel œil cet homme verra-t-il chez lui la présence d'un étranger? Un personnage, grand comme un chêne, une peau de daim sur le dos, des guêtres de cuir aux jambes, des sourcils presque blancs, une longue barbe rousse flottant sur la poitrine, le fusil sur l'épaule, parut soudain. Bouton d'or s'était lancé dans ses bras en s'écriant « Mon père !»« Ah, voilà le garçon dont tu m'as parlé, » dit-il en jetant un regard profond sur Dolan. « Soyez le bienvenu, jeune homme, » dit-il en lui tendant la main. « Vous êtes du pays, est-ce que m'a dit notre fille ?»« J'en suis, » répondit Dolan. En ce cas, je vous retiens à dîner. Bouton d'or, prépare la table et donne à boire. Le repas fut simple. Dolan mangea d'un bon appétit. Un orage terrible s'éleva sur la forêt. Dolan passa la nuit dans la cabane, étendu sur une botte de paille, où il dormit très bien. Au jour, le père de Bouton d'Or siffla son chien, prépara son arquebuse et dit à Dolan : Nous allons à la chasse, en êtes-vous ?
Volontiers, répondit le prince, et s'armant en son tour, il suivit le vieil chasseur.
Le lendemain, l'inquiétude était grande au château. Tout le monde était en émoi, les gardes couraient par la ville à la recherche du prince. Toutes les maisons furent visitées, les personnes interrogées. Rien, aucune découverte, aucune réponse. Une seule personne alors ne partageait pas l'inquiétude générale. Le bon moine, vers la fin du jour, dit à la reine et au roi : Il nous reste une cabane à visiter là-bas dans la forêt. Courons-y, fit la petite reine Brabançon tout en larmes. Une heure après, on frappait à la cabane de l'homme rouge, comme on appelait le père de Bouton d'Or. Dolan, fatigué d'une chasse de toute la journée, accablé de faim, mordait dans un morceau de pain noir, découpait un morceau de lard grillé dans une assiette de faïence, en face d'un grand verre rempli d'un gros vin noir, riait à gorge déployée en racontant à Bouton d'Or les aventures de la chasse quand le roi et la reine entrèrent accompagnés du moine et du savant. Bouton d'Or se leva rapidement, courut se jeter dans les bras du saint homme en lui disant « Bonjour mon bon oncle !»« Bonjour frère !» fit à son tour l'homme rouge en lui tendant la main. Dolan croyait rêver. « Frère !» dit alors le bon moine. Le prince Dolan a disparu du palais depuis hier. Le roi et la reine sont dans la désolation. N'auriez-vous pas rencontré le prince, mon frère? Si vous l'avez vu, dites-nous-le au plus vite.
Je n'ai pas vu le prince, répondit simplement l'homme rouge. Et vous, jeune homme, dit le savant en s'adressant à Dolan lui-même, n'auriez-vous pas rencontré ces chers princes? N'auriez-vous pas rencontré notre cher enfant? Demandait la reine en sanglotant. « N'auriez-vous pas vu notre cher fils ?» demandait le roi dont le visage était un peu défleuri. Alors Dolan, n'y tenant plus, se jeta tout en pleurs dans les bras de ses bons parents.
« Quoi ? » s'écria le roi. « Ce garçon qui boit du gros vin noir dans un grand verre, qui rompt du pain dur avec voracité, qui broie du lard salé sous ses dents enfamées. Quoi ? C'est là mon fils, mon pauvre fils si chétif ?»
« Chétif !» s'écria l'homme rouge. « Songez, sire, que le prince a fait aujourd'hui 15 lieues à courir un daim, que d'un seul coup de cette mauvaise canardière, il a jeté bas l'animal. » Le savant allait vanter son élixir, quand Dolan, prenant la fille de l'homme rouge par la main, la présenta au roi et à la reine en disant « Voilà mon médecin. Fille du comte de La Roche, gentilhomme breton, que de profonds chagrins on conduit dans ces lieux par misanthropie, ajouta le saint homme.
Monsieur le comte, fit le roi, en s'adressant au père de Bouton d'Or, nous vous devons plus que la vie. Quittez cette hutte indigne de vous, indigne de votre enfant, et venez à la cour. L'homme rouge gardait le silence. Son visage était devenu triste rêveur. Je vous en supplie, mon frère, fit le moine. L'homme rouge parut attendri devant les regards noyés des deux jeunes gens. À quel temps de là, le roi et la reine Brabançon appelaient Bouton d'Or leur chère fille. Et Dolan, une jolie princesse au bras, disait en visitant la hutte abandonnée et la vive fontaine. « Je vous dois l'existence, ma belle fleur des herbes. Et moi, mon éclat, répondait Bouton d'Or. « Vous êtes ma vie, disait le prince, et vous, mon soleil. » Sans vous, je m'éteignais. Sans vous, je mourais obscur. Maintenant, messieurs, il faut vous occuper de l'avenir de vos peuples. Oh, maintenant, je suis fort. Quelqu'un m'aime. Je veux être appelé prince actif désormais. Et bon, fit la jeune femme en souriant. Docteur, humiliant nos offrons en face de puissances invisibles, répétait le bon moine au savant. « Je conviens que la princesse est bien jolie, » répondait Armand. « Cependant la science, elle sera toujours impuissante à guérir les inquiétudes de l'esprit, » fut la dernière réponse du moine. Fin de Bouton d'or par Sévignan Lapointe. Enregistré par Fanny. Thessalonique, Grèce.
La petite sirène par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Daniel Newton. La petite sirène par Hans Christian Andersen. Au large dans la mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente comme le plus pur cristal. Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'ancre et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur demeure. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a là que des fonds de sable nu blanc. Non, il y pousse les arbres et les plantes les plus étranges, dont les tiges et les feuilles sont si souples qu'elles ondulent au moindre mouvement de l'eau. On dirait qu'elles sont vivantes. Tous les poissons, grands et petits, glissent dans les branches comme ici les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Les murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent, mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en effet est rique, car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes, dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années. Sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait 12 huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à 6. Elle méritait du reste de grands éloges, et cela surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient 6 enfants charmants, mais la plus jeune était la plus belle de toutes, la peau fine et transparente telle un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais, comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds, son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flamme. Sur tout cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Par temps très calme, on apercevait le soleil comme une fleur de pourpre dont la corolle irradiait des faisceaux de lumière. Chaque princesse avait son carré de jardin où elle pouvait bêcher et planter à son gré. L'une donnait à sa corbeille de fleurs la forme d'une baleine, l'autre préférait qu'elle figurât une sirène. Mais la plus jeune fit la sienne toute ronde comme le soleil, et n'y planta que des fleurs éclatantes comme lui. C'était une singulière enfant, silencieuse et réfléchie. Tandis que ses sœurs ornaient leur jardinier des objets les plus disparates tombés de navires naufragés, elle ne voulut, en dehors des fleurs rouges comme le soleil de là-haut, qu'une statuette de marbre, un charmant jeune garçon taillé dans une pierre d'une blancheur pure, et échoué, par suite d'un naufrage, au fond de la mer. Elle planta près de la statue un sol pleureur rouge qui grandit à merveille. Elle n'avait pas de plus grande joie que d'entendre parler du monde des humains. La grand-mère devait raconter tout ce qu'elle savait des bateaux et des villes, des hommes et des bêtes, et, ce qui l'étonnait le plus, c'est que là-haut, sur la terre, les fleurs eussent un parfum, ce qu'elles n'avaient pas au fond de la mer, et que la forêt y fût verte et que les poissons voltigeant dans les branches chantassent si délicieusement que c'en était un plaisir. C'étaient les oiseaux que la grand-mère appelait poissons. Autrement, les petites filles ne l'auraient pas comprise, n'ayant jamais vu d'oiseaux. Quand vous aurez vos 15 ans, dit la grand-mère, vous aurez la permission de monter à la surface, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers et de voir passer les grands vaisseaux qui naviguent, et vous verrez les forêts et les villes, vous verrez. Au cours de l'année, l'une des sœurs eut 15 ans, et comme elles se suivaient toutes à 1 an de distance, la plus jeune devait attendre 5 grandes années avant de pouvoir monter du fond de la mer. Mais chacune promettait aux plus jeunes de leur raconter ce qu'elle avait vu de plus beau dès le premier jour. Grand-mère n'en disait jamais assez à leur gré. Elle voulait savoir tant de choses. Aucune n'était plus impatiente que la plus jeune, justement celle qui avait le plus longtemps à attendre, la silencieuse, la pensive. Que de nuits elle passait debout à la fenêtre ouverte, scrutant la sombre eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leurs queues. Elle apercevait la lune et les étoiles plus pâles, il est vrai, à travers l'eau, mais plus grandes aussi qu'à nos yeux. Si parfois un nuage noir glissait au-dessous d'elle, la petite savait que c'était une baleine qui nageait dans la mer, ou encore un navire portant de nombreux hommes, lesquels ne pensaient sûrement pas qu'une adorable petite sirène, là, tout en bas, tendait ses fines mains blanches vers la quille du bateau. Vint le temps où l'aînée des princesses eut 15 ans et put monter à la surface de la mer. À son retour, elle avait 1000 choses à raconter, mais le plus grand plaisir, disait-elle, était de s'étendre au clair de lune sur un banc de sable par une mer calme et de voir, tout près de la côte, la grande ville aux lumières scintillantes comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique et tout ce vacarme des voitures et des gens, d'apercevoir tant de tours d'églises et de clochers, d'entendre sonner les cloches. Justement, parce qu'elle ne pouvait y aller, c'était de cela qu'elle avait le plus grand désir. Oh, comme la plus jeune sœur l'écoutait passionnément! Et depuis lors, le soir, lorsqu'elle se tenait près de la fenêtre ouverte et regardait en haut à travers l'eau sombre et bleue, elle pensait à la grande ville et à ses rumeurs, et il lui semblait entendre le son des cloches descendant jusqu'à elle. L'année suivante, il fut permis à la deuxième sœur de monter à la surface et de nager comme elle voudrait. Elle émergea juste au moment du coucher du soleil, et ce spectacle lui parut le plus merveilleux. Tout le ciel semblait d'or et les nuages, comment décrire leur splendeur? Pourpre et violet, ils voguaient au-dessus d'elle, mais plus rapide qu'eux, comme un long voile blanc, une troupe de cygnes sauvages volait très bas au-dessus de l'eau vers le soleil qui baissait. Elle avait nagé de ce côté, mais il s'était enfoncé, il avait disparu, et la lueur rose s'était éteinte sur la mer et sur les nuages. L'année suivante, ce fut le tour de la troisième sœur. Elle était la plus hardie de toutes. Aussi remonta-t-elle le cours d'un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit de jolies collines vertes couvertes de vignes, des châteaux et des fermes apparaissaient au milieu des forêts. Elle entendait les oiseaux chanter et le soleil ardent l'obligeait souvent à plonger pour rafraîchir son visage brûlant. Dans une petite anse, elle rencontra un groupe d'enfants qui couraient tout nus et barbotés dans l'eau. Elle aurait aimé jouer avec eux, mais ils s'en furent effrayés, et un petit animal noir, c'était un chien, mais elle n'en avait jamais vu, aboya si férocement après elle qu'elle prit peur et nagea vers le large. La quatrième n'était pas si téméraire. Elle resta au large et raconta que c'était là précisément le plus beau. On voyait à des lieues autour de soi et le ciel, au-dessus, semblait une grande cloche de verre. Elle avait bien vu des navires, mais de très loin. Ils ressemblaient à de grandes mouettes. Les dauphins avaient fait des culbutes et les immenses baleines avaient fait jaillir l'eau de leurs narines, des centaines de jets d'eau. Vint enfin le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire se trouvait en hiver. Elle vit ce que les autres n'avaient pas vu. La mer était toute verte, de ci de là flottaient de grands icebergs, dont chacun avait l'air d'une perle. Elle était montée sur l'un d'eux, et tous les voiliers s'écartaient effrayés de l'endroit où elle était assise, ses longs cheveux flottant au vent, mais vers le soir, les nuages obscurcirent le ciel, il y eut des éclairs et du tonnerre. La mer noire élevait très haut les blocs de glace scintillant dans le zigzag de la foudre. Sur tous les bateaux, on carguait les voiles dans l'angoisse et l'inquiétude, mais elle, assise sur l'iceberg flottant, regardait la lame bleue de l'éclair tomber dans la mer un instant illuminée. La première fois que l'une des sœurs émergeait à la surface de la mer, elle était toujours enchantée de la beauté, de la nouveauté du spectacle. Mais devenues des filles adultes, lorsqu'elles étaient libres d'y remonter comme elles le voulaient, cela leur devenait indifférent. Elle regrettait leur foyer et, au bout d'un mois, elle disait que le fond de la mer c'était plus beau et qu'on était si bien chez soi. Lorsque le soir les sœurs, se tenant par le bras, montaient à travers l'eau profonde, la petite dernière restait toute seule et les suivait des yeux. Elle aurait voulu pleurer, mais les sirènes n'ont pas de larmes et n'en souffrent que davantage. Hélas! Que n'ai-je 15 ans? Soupirait-elle. Je sais que moi j'aimerais le monde de là-haut, et les hommes qui y construisent leur demeure. Eh bien, tu vas échapper à notre autorité, lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. Viens que je te pars comme tes sœurs. Elle mit sur ses cheveux une couronne de lis blanc, dont chaque pétale était une demi-perle, et elle lui fit attacher 8 huîtres à sa queue pour marquer sa haute naissance. Cela fait mal, dit la petite. Il faut souffrir pour être belle, dit la vieille. Oh, que la petite aurait aimé secouer d'elle toutes ses parures et déposer cette lourde couronne. Les fleurs rouges de son jardin lui seyaient 1000 fois mieux, mais elle n'osait pas à présent en changer. Au revoir, dit-elle, en s'élevant aussi légère et brillante qu'une bulle à travers les eaux. Le soleil venait de se coucher lorsqu'elle sortit sa tête à la surface, mais les nuages portaient encore son reflet de rose et d'or, et, dans l'atmosphère tendre, scintillait l'étoile du soir, si douce et si belle. L'air était pur et frais, et la mer sans un pli. Un grand navire à 3 mâts se trouvait là, une seule voile tendue, car il n'y avait pas le moindre souffle de vent, et tous à la ronde sur les cordages et les vergues, les matelots étaient assis. On faisait de la musique, on chantait, et lorsque le soir s'assombrit, on alluma des centaines de lumières de couleurs diverses. On eût dit que flottaient dans l'air les drapeaux de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre du salon du navire, et chaque fois qu'une vague la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une réunion de personnes en grande toilette. Le plus beau de tous était un jeune prince aux yeux noirs, ne paraissant guère plus de 16 ans. C'était son anniversaire, c'est pourquoi il y avait grande fête. Les marins dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince y apparut, des centaines de fusées montèrent vers le ciel et éclatèrent en éclairant comme en plein jour. La petite sirène en fut tout effrayée et replongea dans l'eau, mais elle releva bien vite de nouveau la tête, et il lui parut alors que toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle. Jamais elle n'avait vu pareille magie embrasée. De grands soleils flamboyants tournoyaient, des poissons de feu s'élançaient dans l'air bleu et la mer paisible réfléchissait toutes ses lumières. Sur le navire, il faisait si clair qu'on pouvait voir le moindre cordage et naturellement les personnes. Que le jeune prince était beau! Il serrait les mains à la ronde, tandis que la musique s'élevait dans la belle nuit. Il se faisait tard, mais la petite sirène ne pouvait détacher ses regards du bateau ni du beau prince. Les lumières colorées s'éteignirent, plus de fusées dans l'air, plus de canons, seulement, dans le plus profond de l'eau, un sourd grondement. Elle flottait sur l'eau et les vagues la balançaient, en sorte qu'elle voyait l'intérieur du salon. Le navire prenait de la vitesse. L'une après l'autre, on larguait les voiles, la mer devenait houleuse, de gros nuages parurent, des éclairs sillonnèrent au loin le ciel. Il allait faire un temps épouvantable. Alors, vite les matelots replièrent les voiles. Le grand navire roulait dans une course folle sur la mer démontée, les vagues, en haute montagne noire, déferlaient sur le grand mât comme pour l'abattre. Le bateau plongeait comme un cygne entre les lames et s'élevait ensuite sur elle. Les marins, eux, si la petite sirène s'amusait de cette course, semblaient ne pas la goûter. Le navire craquait de toutes parts, les épais cordages ployaient sous les coups. La mer attaquait. Bientôt, le mât se brisa par le milieu comme un simple roseau. Le bateau prit de la bande, l'eau envahit la cale. Alors seulement la petite sirène comprit qu'il y avait danger. Elle devait elle-même se garder des poutres et des épaves tourbillonnant dans l'eau. Un instant, tout fut si noir qu'elle ne vit plus rien, et, tout à coup, le temps d'un éclair, elle les aperçut tous sur le pont. Chacun se sauvait comme il pouvait. C'était le jeune prince qu'elle cherchait du regard, et lorsque le bateau s'entr'ouvrit, elle le vit s'enfoncer dans la mer profonde. Elle en eut d'abord de la joie à la pensée qu'il descendait chez elle, mais ensuite elle se souvint que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et qu'ils ne pourraient atteindre que mort le château de son père. Non, il ne fallait pas qu'il mourût. Elle nagea au milieu des épaves qui pouvaient l'écraser, plongea profondément, puis remonta très haut au milieu des vagues, et enfin elle approcha le prince. Il n'avait presque plus la force de nager, ses bras et ses jambes déjà s'immobilisaient. Ses beaux yeux se fermaient, il serait mort sans la petite sirène. Quand vint le matin, la tempête s'était apaisée, pas le moindre débris du bateau n'était en vue. Le soleil se leva, rouge et étincelant, et semblant ranimer les joues du prince. Mais ses yeux restaient clos. La petite sirène déposa un baiser sur son beau front élevé et repoussa ses cheveux ruisselants. Elle voyait maintenant devant elle la terre ferme aux hautes montagnes bleues couvertes de neige, aux belles forêts vertes descendant jusqu'à la côte. Une église ou un cloître s'élevait là. Elle ne savait au juste, mais un bâtiment. Des citrons et des oranges poussaient dans le jardin, et devant le portail se dressaient des palmiers. La mer creusait là une petite crique à l'eau parfaitement calme, mais très profonde, baignant un rivage rocheux couvert d'un sable blanc très fin. Elle nagea jusque-là avec le beau prince, le déposa sur le sable en ayant soin de relever sa tête sous les chauds rayons du soleil. Les cloches se mirent à sonner dans le grand édifice blanc, et des jeunes filles traversèrent le jardin. Alors la petite sirène s'éloigna à la nage et se cacha derrière quelques hauts récifs émergeant de l'eau. Elle couvrit d'écume ses cheveux et sa gorge pour passer inaperçue et se mit à observer qui allait venir vers le pauvre prince. Une jeune fille ne tarda pas à s'approcher. Elle eut d'abord grand-peur, mais un instant seulement, puis elle courut chercher du monde. La petite sirène vit le prince revenir à lui. Il sourit à tous à la ronde, mais pas à elle. Il ne savait pas qu'elle l'avait sauvé. Elle en eut grand-peine, et lorsque le prince eut été porté dans le grand bâtiment, elle plongea désespérée et retourna chez elle au palais de son père. Elle avait toujours été silencieuse et pensive, elle le devint bien davantage. Ses sœurs lui demandèrent ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Bien souvent, le soir et le matin, elle montait jusqu'à la place où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, et elle les vit cueillir. Elle vit la neige fondre sur les hautes montagnes, mais le prince, elle ne le vit pas, et elle retournait chez elle toujours plus désespérée. À la fin, elle n'y tint plus et se confia à l'une de ses sœurs. Aussitôt, les autres furent au courant, mais elle seulement, et deux ou trois autres sirènes qu'ils ne le répétèrent qu'à leurs amis les plus intimes. L'une d'elles savait qui était le prince. Elle avait vu aussi la fête à bord, elle savait d'où il était, où se trouvait son royaume. « Viens, petite sœur, » dirent les autres princesses. Et s'enlaçant, elles montèrent en une longue chaîne vers la côte où s'élevait le château du prince. Par les vitres claires des hautes fenêtres, on voyait les salons magnifiques où pendaient de riches rideaux de soie et de précieuses portières. Les murs s'ornaient, pour le plaisir des yeux, de grandes peintures. Dans la plus grande salle chantait un jet d'eau jaillissant très haut vers la verrière du plafond. Elle savait maintenant où il habitait, et elle revint souvent, le soir et la nuit. Elle s'avançait dans l'eau bien plus près du rivage qu'aucune de ses sœurs n'avait osé le faire. Oui, elle entra même dans l'étroit canal passant sous le balcon de marbre qui jetait une longue ombre sur l'eau. Et là, elle restait à regarder le jeune prince qui se croyait seul au clair de lune. Bien des nuits, lorsque les pêcheurs étaient en mer avec leurs torches, elle les entendit dire du bien du jeune prince. Elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie lorsqu'il roulait à demi-mort dans les vagues. Lui ne savait rien de tout cela. Il ne pouvait même pas rêver d'elle. De plus en plus, elle en venait à chérir les humains. De plus en plus, elle désirait pouvoir monter parmi eux. Leur monde, pensait-elle, était bien plus vaste que le sien. Ne pouvaient-ils pas sur leur bateau sillonner les mers, escalader les montagnes bien au-dessus des nuages, et les pays qu'ils possédaient ne s'étendaient-ils pas en forêts et champs bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient saisir? Elle voulait savoir tant de choses pour lesquelles ses sœurs n'avaient pas toujours de réponse. C'est pourquoi elle interrogea sa vieille grand-mère, bien informée sur le monde d'en haut, comme elle appelait fort justement les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas, » demandait la petite sirène, « peuvent-ils vivre toujours et ne meurent-ils pas comme nous autres ici au fond de la mer ?»« Si, » dit la vieille, « il leur faut mourir aussi, et la durée de leur vie est même plus courte que la nôtre. Nous pouvons atteindre 300 ans, mais lorsque nous cessons d'exister ici, nous devenons écume sur les flots, sans même une tombe parmi ceux que nous aimons. Nous n'avons pas d'âme immortelle, nous ne reprenons jamais vie, pareil au roseau vert qui, une fois coupé, ne reverdit jamais. Les hommes, au contraire, ont une âme qui vit éternellement, qui vit lorsque leur corps est retourné en poussière. Elle s'élève dans l'air limpide jusqu'aux étoiles scintillantes. De même que nous émergeons de la mer pour voir le pays des hommes, ils montent vers des pays inconnus et pleins de délices que nous ne pourrons voir jamais. « Pourquoi n'avons-nous pas une âme éternelle ?» dit la petite, attristée. « Je donnerai les centaines d'années que j'ai à vivre pour devenir un seul jour un être humain et avoir part ensuite au monde céleste. » « Ne pense pas à tout cela, » dit la vieille. « Nous vivons beaucoup mieux et sommes bien plus heureux que les hommes là-haut. Donc, il faudra que je meure et flotte comme écume sur la mer. » Ils n'entendent jamais plus la musique des vagues, ne voient plus les fleurs ravissantes et le rouge soleil. Ne puis-je rien faire pour gagner une vie éternelle ? Non, dit la vieille, à moins que tu sois si cher à un homme, que tu sois pour lui plus que père et mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées, de tout son amour, qu'il fasse par un prêtre mettre sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité ici-bas et dans l'éternité. Alors son âme glisserait dans ton corps, et tu aurais part au bonheur humain. Il te donnerait une âme et conserverait la sienne. Mais cela ne peut jamais arriver. Ce qui est ravissant ici dans la mer, ta queue de poisson, ils la trouvent très laide là-haut sur la terre. Ils n'y entendent rien, pour être beau, il leur faut avoir deux grossières colonnes qu'ils appellent des jambes. La petite sirène soupira et considéra sa queue de poisson avec désespoir. « Allons, un peu de gaieté, » dit la vieille. « Nous avons 300 ans pour sauter et danser. C'est un bon laps de temps. Ce soir, il y a bal à la cour. Il sera toujours temps de sombrer dans le néant. » Ce bal fut, il est vrai, splendide, comme on n'en peut jamais voir sur la terre. Les murs et le plafond, dans la grande salle, étaient d'un vert épais, mais clair. Plusieurs centaines de coquilles roses et vert près étaient rangées de chaque côté, et jetait une intense clarté de feu bleu qui illuminait toute la salle et brillait à travers les murs, de sorte que la mer, au dehors, en était toute illuminée. Les poissons innombrables, grands et petits, nageaient contre les murs de verre, luisant d'écailles pourpres ou étincelants comme l'argent et l'or. Au travers de la salle coulait un large fleuve sur lequel dansaient tritons et sirènes au son de leurs propres chants délicieux. La voix de la petite sirène était la plus jolie de toutes. On l'applaudissait et son cœur en fut un instant éclairé de joie car elle savait qu'elle avait la plus belle voix sur terre et sous l'onde. Mais très vite, elle se reprit à penser au monde au-dessus d'elle. Elle ne pouvait oublier le beau prince ni son propre chagrin de ne pas avoir comme lui une âme immortelle. C'est pourquoi elle se glissa hors du château de son père et, tandis que là tout était chant et gaieté, elle s'assit, désespérée, dans son petit jardin. Soudain, elle entendit le son d'un cor venant vers elle à travers l'eau. « Il s'embarque sans doute là-haut maintenant, celui que j'aime plus que père et mère, celui vers lequel vont toutes mes pensées et dans la main de qui je mettrai tout le bonheur de ma vie. J'oserai tout pour les gagner, lui et une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, j'irai chez la sorcière marine. Elle m'a toujours fait si peur. Mais peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider. » Alors la petite sirène sortit de son jardin et nagea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels habitait la sorcière. Elle n'avait jamais été de ce côté où ne poussait aucune fleur, aucune herbe marine. Il n'y avait là rien qu'un fond de sable gris et nu s'étendant jusqu'au gouffre. L'eau y bruissait comme une roue de moulin, tourbillonnait et arrachait tout ce qu'elle pouvait atteindre et l'entraînait vers l'abîme. Il fallait à la petite traverser tous ces terribles tourbillons pour arriver au quartier où habitait la sorcière. Et sur un long trajet, il fallait passer au-dessus de vases chauds et bouillonnants que la sorcière appelait sa tourbière. Au-delà s'élevait sa maison au milieu d'une étrange forêt. Les arbres et les buissons étaient des polypes. Mi-animaux, mi-plantes, ils avaient l'air de serpents aux centaines de têtes sorties de terre. Toutes les branches étaient des bras, longs et visqueux, aux doigts souples comme des vers et leurs anneaux remués de la racine à la pointe. Ils s'enroulaient autour de tout ce qu'ils pouvaient saisir dans la mer et ne lâchaient jamais prise. Debout dans la forêt, la petite sirène s'arrêta tout effrayée. Son cœur battait d'angoisse et elle fut sur le point de s'en retourner. Mais elle pensa au prince, à l'âme humaine, et elle reprit courage. Elle enroula, bien serrée autour de sa tête, ses longs cheveux flottants pour ne pas donner prise aux polypes, croisa ses mains sur sa poitrine et s'élança, comme le poisson peut voler à travers l'eau, au milieu des hideux polypes qui étendaient vers elle leurs bras et leurs doigts. Elle arriva dans la forêt à un espace visqueux où s'ébattaient de grandes couleuvres d'eau, montrant des ventres jaunâtres, affreux et gras. Au milieu de cette place s'élevait une maison construite en ossements humains. La sorcière y était assise et donnait à manger à un crapaud sur ses lèvres, comme on donne du sucre à un canari. « Je sais bien ce que tu veux, » dit la sorcière, « et c'est bien bête de ta part, mais ta volonté sera faite, car elle t'apportera le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais te débarrasser de ta queue de poisson et avoir à sa place deux moignons pour marcher comme le font les hommes, afin que le jeune prince s'éprenne de toi, que tu puisses l'avoir en même temps qu'une âme immortelle. » À cet instant, la sorcière éclata d'un rire si bruyant et si hideux que le crapaud et les couleuvres tombèrent à terre et grouillèrent. « Tu viens juste au bon moment, » ajouta-t-elle. « Demain matin, au lever du soleil, je n'aurai plus pu t'aider avant une année entière. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras, avant le lever du jour, jusqu'à la côte, et là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent de jolies jambes. Mais cela fait mal. Tu souffriras comme si la lame d'une épée te traversait. Tous, en te voyant, diront que tu es la plus ravissante enfant des hommes qu'ils aient jamais vue. Tu garderas ta démarche ailée. Nulle danseuse n'aura ta légèreté. Mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout cela, je t'aiderai. Oui, dit la petite sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à son âme immortelle. « Mais n'oublie pas, dit la sorcière, que lorsque tu auras une apparence humaine, tu ne pourras jamais redevenir sirène, jamais redescendre auprès de tes sœurs dans le palais de ton père. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince au point qu'il oublie pour toi son père et sa mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées et demande au pasteur d'unir vos mains afin que vous soyez mari et femme, alors tu n'auras jamais une âme immortelle. Le lendemain matin du jour où il en épouserait une autre, ton cœur se briserait et tu ne serais plus qu'écume sur la mer. « Je le veux, » dit la petite sirène, pâle comme une morte. « Mais moi, il faut aussi me payer, » dit la sorcière. « Et ce n'est pas peu de choses que je te demande. Tu as la plus jolie voix de tout ici-bas, et tu crois sans doute grâce à elle ensorceler ton prince. Mais cette voix, il faut me la donner. Le meilleur de ce que tu possèdes, il me le faut pour mon précieux breuvage. » Moi, j'y mets de mon sang afin qu'il soit coupant comme une lame à deux tranchants. Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il? Ta forme ravissante, ta démarche ailée et le langage de tes yeux, c'est assez pour séduire un cœur d'homme. Allons, as-tu déjà perdu courage? Tends ta jolie langue afin que je la coupe pour me payer et je te donnerai le philtre tout-puissant. Qu'il en soit ainsi, dit la petite sirène, et la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire cuire la drogue magique. « La propreté est une bonne chose, dit-elle en récurant le chaudron avec les couleuvres dont elle avait fait un nœud. Elle s'égratigna le sein et laissa couler son sang épais et noir. La vapeur s'élevait en silhouettes étranges, terrifiantes. À chaque instant, la sorcière jetait quelque chose dans le chaudron et la mixture se mit à bouillir. On eût cru entendre pleurer un crocodile. Enfin, le filtre fut à point. Il était clair comme l'eau la plus pure. « Voilà, » dit la sorcière, et elle coupa la langue de la petite sirène. Muette, elle ne pourrait jamais plus ni chanter, ni parler. Si les polypes essayent de t'agripper, lorsque tu retourneras à travers la forêt, jette une seule goutte de ce breuvage sur eux, et leurs bras et leurs doigts se briseront en mille morceaux. La petite sirène n'eut pas à le faire. Les polypes reculaient, effrayés de voir le filtre lumineux qui brillait dans sa main comme une étoile. Elle traversa rapidement la forêt, le marais et le courant mugissant. Elle était devant le palais de son père. Les lumières étaient éteintes dans la grande salle du bal. Tout le monde dormait sûrement, et elle n'osa pas aller auprès des siens maintenant qu'elle était muette et allait les quitter pour toujours. Il lui sembla que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa dans le jardin, cueillit une fleur du parterre de chacun de ses sœurs, envoya de ses doigts mille baisers au palais et monta à travers l'eau sombre et bleue de la mer. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'elle vit le palais du prince et gravit les degrés du magnifique escalier de marbre. La lune brillait merveilleusement claire. La petite sirène but l'âpre et brûlante mixture. Ce fut comme si une épée à deux tranchants fendait son tendre corps. Elle s'évanouit et resta étendue comme morte. Lorsque le soleil resplendit au-dessus des flots, elle revint à elle et ressentit une douleur aiguë. Mais devant elle, debout, se tenait le jeune prince, ses yeux noirs fixés si intensément sur elle qu'elle en baissa les siens et vit qu'à la place de sa queue de poisson disparue, elle avait les plus jolies jambes blanches qu'une jeune fille pût avoir. Et comme elle était tout à fait nue, elle s'enveloppa dans sa longue chevelure. Le prince demanda qui elle était, comment elle était venue là, et elle leva vers lui doucement, mais tristement, ses grands yeux bleus puisqu'elle ne pouvait parler. Alors il la prit par la main et la conduisit au palais. À chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenu, il lui semblait marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés, mais elle supportait son mal. Sa main dans la main du prince, elle montait aussi légère qu'une bulle et lui-même et tous les assistants s'émerveillèrent de sa démarche gracieuse et ondulante. On lui fit revêtir les plus précieux vêtements de soie et de mousseline. Elle était au château la plus belle, mais elle restait muette. Des esclaves ravissantes parées de soie et d'or venaient chanter devant le prince et ses royaux parents. L'une d'elles avait une voix plus belle encore que les autres. Le prince l'applaudissait et lui souriait. Alors une tristesse envahit la petite sirène. Elle savait qu'elle-même aurait chanté encore plus merveilleusement, et elle pensait « Oh, si seulement il savait que pour rester près de lui, j'ai renoncé à ma voix à tout jamais !» Puis, les esclaves commencèrent à exécuter au son d'une musique admirable des danses légères et gracieuses. Alors la petite sirène, élevant ses beaux bras blancs, se dressa sur la pointe des pieds et dansa avec plus de grâce qu'aucune autre. Chaque mouvement révélait davantage le charme de tout son être, et ses yeux s'adressaient au cœur plus profondément que le chant des esclaves. Tous en étaient enchantés, et surtout le prince qui l'appelait sa petite enfant trouvée. Elle continuait à danser et danser, mais chaque fois que son pied touchait le sol, c'était comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés. Le prince voulut la voir toujours auprès de lui, il lui permit de dormir devant sa porte sur un coussin de velours. Il lui fit faire un habit d'homme pour qu'elle pût le suivre à cheval. Il chevauchait à travers les bois embaumés où les branches vertes lui battaient les épaules, et les petits oiseaux chantaient dans le frais feuillage. Elle grimpa avec le prince sur les hautes montagnes, et quand ses pieds si délicats saignaient et que les autres s'en apercevaient, elle riait et le suivait là-haut, d'où ils admiraient les nuages défilant au-dessous d'eux comme un vol d'oiseaux migrateurs partant vers des cieux lointains. La nuit, au château du prince, lorsque les autres dormaient, elle sortait sur le large escalier de marbre et, debout dans l'eau froide, elle rafraîchissait ses pieds brûlants. Et puis, elle pensait aux siens, en bas, au fond de la mer. Une nuit, elle vit ses sœurs qui nageaient enlacées. Elle chantait tristement et elle leur fit signe. Ses sœurs la reconnurent et lui dirent combien elle avait fait de peine à tous. Depuis lors, elles lui rendirent visite chaque soir. Une fois même, la petite sirène aperçut au loin sa vieille grand-mère, qui depuis bien des années n'était montée à travers la mer, et même le roi, son père, avec sa couronne sur la tête. Tous deux lui tendaient les bras, mais n'osaient s'approcher autant que ses sœurs. De jour en jour, elle devenait plus chère au prince. Il l'aimait comme on aime un gentil enfant tendrement chéri. Mais en faire une reine, il n'en avait pas la moindre idée. Et c'est sa femme qu'il fallait qu'elle devînt, sinon elle n'aurait jamais une âme immortelle, et, au matin qui suivrait le jour de ses noces, elle ne serait plus qu'écume sur la mer. « Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres ?» semblaient dire les yeux de la petite sirène quand il la prenait dans ses bras et baisait son beau front. « Oui, tu m'es la plus chère, » disait le prince, « car ton cœur est le meilleur. Tu m'es la plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille une fois aperçue, mais que je ne retrouverai sans doute jamais. » J'étais sur un vaisseau qui fit naufrage. Les vagues me jetèrent sur la côte près d'un temple desservi par quelques jeunes filles. La plus jeune me trouva sur le rivage et me sauva la vie. Je ne l'ai vue que deux fois, et elle est la seule que j'eusse pu aimer d'amour en ce monde. Mais toi, tu lui ressembles. Tu effaces presque son image dans mon âme, puisqu'elle appartient au temple. C'est ma bonne étoile qui t'a envoyée à moi. Nous ne nous quitterons jamais. Hélas! Il ne sait pas que c'est moi qui ai sauvé sa vie, pensait la petite sirène. Je l'ai portée sur les flots jusqu'à la forêt près de laquelle s'élève le temple, puis je me cachai derrière l'écume et regardai si personne ne viendrait. J'ai vu la belle jeune fille qu'il aime plus que moi. La petite sirène poussa un profond soupir. Pleurer, elle ne le pouvait pas. La jeune fille appartient au lieu saint. Elle n'en sortira jamais pour retourner dans le monde. Ils ne se rencontreront plus. Moi, je suis chez lui, je le vois tous les jours, je le soignerai, je l'adorerai, je lui dévouerai ma vie. Mais voilà qu'on commence à murmurer que le prince va se marier, qu'il épouse la ravissante jeune fille du roi voisin, que c'est pour cela qu'il arme un vaisseau magnifique. On dit que le prince va voyager pour voir les états du roi voisin, mais c'est plutôt pour voir la fille du roi voisin et une grande suite l'accompagnera. Mais la petite sirène secoue la tête et rit. Elle connaît les pensées du prince bien mieux que tous les autres. « Je dois partir en voyage, lui avait-il dit. Je dois voir la belle princesse, mes parents l'exigent. Mais m'obliger à la ramener ici, en faire mon épouse, cela, ils n'y réussiront pas. Je ne peux pas l'aimer d'amour, elle ne ressemble pas comme toi à la belle jeune fille du temple. Si je devais un jour choisir une épouse, ce serait plutôt toi. » Mon enfant trouvé qui ne dit rien, mais dont les yeux parlent. Et il baisait ses lèvres rouges, jouait avec ses longs cheveux et posait sa tête sur son cœur qui se mettait à rêver du bonheur humain et d'une âme immortelle. « Toi, tu n'as sûrement pas peur de la mer, ma petite muette chérie, » lui dit-il lorsqu'ils montèrent à bord du vaisseau qui devait les conduire dans le pays du roi voisin. Il lui parlait de la mer tempétueuse et de la mer calme, des étranges poissons des grandes profondeurs et de ce que les plongeurs y avaient vu. Elle souriait de ce qu'il racontait. Ne connaissait-elle pas mieux que quiconque le fond de l'océan? Dans la nuit, au clair de lune, alors que tous dormaient à bord, sauf le marin au gouvernail, debout près du bastingage, elle scrutait l'eau limpide. Il lui semblait voir le château de son père et, dans les combles, sa vieille grand-mère, couronne d'argent sur la tête, cherchant des yeux à travers les courants la quille du bateau. Puis ses sœurs arrivèrent à la surface, la regardant tristement et tordant leurs mains blanches. Elle leur fit signe, leur sourit, voulut leur dire que tout allait bien, qu'elle était heureuse. Mais un mousse s'approchant, les sœurs replongèrent et le garçon demeura persuadé que cette blancheur aperçue n'était qu'écume sur l'eau. Le lendemain matin, le vaisseau fit son entrée dans le port splendide de la capitale du roi voisin. Les cloches des églises sonnaient. Du haut des tours, on soufflait dans les trompettes tandis que les soldats sous les drapeaux flottants présentaient les armes. Chaque jour, il y eut fête. Bals et réceptions se succédaient, mais la princesse ne paraissait pas encore. On disait qu'elle était élevée au loin, dans un couvent où lui étaient enseignées toutes les vertus royales. Elle vint, enfin. la petite sirène était fort impatiente de juger de sa beauté. Il lui fallut reconnaître qu'elle n'avait jamais vu fille plus gracieuse. Sa peau était douce et pâle, et derrière les longs cils, deux yeux fidèles, d'un bleu sombre, souriaient. C'était la jeune fille du temple. « C'est toi, » dit le prince, « je te retrouve, toi qui m'as sauvé lorsque je gisais comme mort sur la grève. » Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « Oh, je suis trop heureux, » dit-il à la petite sirène. Voilà que se réalise ce que je n'eusse jamais osé espérer. Toi qui m'aimes mieux que tous les autres, tu te réjouiras de mon bonheur. » La petite sirène lui baisait les mains, mais elle sentait son cœur se briser. Ne devait-elle pas mourir au matin qui suivrait les noces? Mourir et n'être plus qu'écume sur la mer? Des héros parcouraient les rues à cheval proclamant les fiançailles. Bientôt, toutes les cloches des églises sonnèrent. Sur tous les autels, des huiles parfumées brûlaient dans des précieux vases d'argent. Les prêtres balancèrent les encensoirs, et les époux se tendirent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque. La petite sirène, vêtue de soie et d'or, tenait la traîne de la mariée, mais elle n'entendait pas la musique sacrée. Ses yeux ne voyaient pas la cérémonie sainte. Elle pensait à la nuit de sa mort, à tout ce qu'elle avait perdu en ce monde. Le soir même, les époux s'embarquèrent aux salves des canons, sous les drapeaux flottants. Au milieu du pont, une tente d'or et de pourpre avait été dressée, garnie de coussins moelleux, où les époux reposeraient dans le calme et la fraîcheur de la nuit. Les voiles se gonflèrent au vent, et le bateau glissa sans effort et sans presque se balancer sur la mer limpide. La nuit venue, on alluma des lumières de toutes les couleurs et les marins se mirent à danser. La petite sirène pensait au soir où, pour la première fois, elle avait émergé de la mer et avait aperçu le même faste et la même joie. Elle se jeta dans le tourbillon de la danse, ondulant comme ondule un cygne pourchassé, et tout le monde l'acclamait et l'admirait. Elle n'avait jamais dansé si divinement. Si des lames aiguës transperçaient ses pieds délicats, elle ne les sentait même pas. Son cœur était meurtri d'une bien plus grande douleur. Elle savait qu'elle le voyait pour la dernière fois, lui, pour lequel elle avait abandonné les siens et son foyer, perdu sa voix exquise et souffert chaque jour d'indicibles tourments, sans qu'il en eût connaissance. C'était la dernière nuit où elle respirait le même air que lui, la dernière fois qu'elle pouvait admirer cette mer profonde, ce ciel plein d'étoiles. La nuit éternelle, sans pensée et sans rêve, l'attendait, elle qui n'avait pas d'âme et n'en pouvait espérer. Sur le navire, tout fut plaisir et réjouissance jusque bien avant dans la nuit. Elle dansait et riait, mais la pensée de la mort était dans son cœur. Le prince embrassait son exquise épouse qui caressait les cheveux noirs de son époux. Puis, la tenant à son bras, il l'amena se reposer sous la tente splendide. Alors, tout fut silence et calme sur le navire. Seul veillait l'homme à la barre. La petite sirène appuya ses bras sur le bastingage et chercha à l'orient la première lueur rose de l'aurore, le premier rayon du soleil qui allait la tuer. Soudain, elle vit ses sœurs apparaître au-dessus de la mer. Elles étaient pâles comme elles-mêmes, leurs longs cheveux ne flottaient plus au vent, on les avait coupés. Nous les avons sacrifiées chez la sorcière pour qu'elle nous aide, pour que tu ne meures pas cette nuit. Elle nous a donné un couteau. Le voici, regarde comme il est aiguisé. Avant que le jour ne se lève, il faut que tu le plonges dans le cœur du prince, et lorsque son sang tout chaud tombera sur tes pieds, ils se réuniront en une queue de poisson et tu redeviendras sirène. Tu pourras descendre sous l'eau jusque chez nous et vivre 300 ans avant de devenir un peu d'écume salée. Hâte-toi ! L'un de vous deux doit mourir avant l'aurore. Notre vieille grand-mère a tant de chagrin qu'elle a, comme nous, laissé couper ses cheveux blancs par les ciseaux de la sorcière. Tue le prince et reviens-nous. Hâte-toi ! Ne vois-tu pas déjà cette traînée rose à l'horizon ? Dans quelques minutes, le soleil se lèvera et il te faudra mourir. » Un soupir étrange monta à leurs lèvres et elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de pourpre de la tente. Elle vit la douce épousée dormant la tête appuyée sur l'épaule du prince. Alors, elle se pencha et posa un baiser sur le beau front du jeune homme. Son regard chercha le ciel de plus en plus envahi par l'aurore, puis le poignard pointu, puis à nouveau le prince, lequel, dans son sommeil, murmurait le nom de son épouse qui occupait seule ses pensées, et le couteau trembla dans sa main. Alors, tout à coup, elle le lança au loin dans les vagues qui rougirent à l'endroit où il toucha les flots, comme si des gouttes de sang jaillissaient à la surface. Une dernière fois, les yeux voilés, elle contempla le prince et se jeta dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume. Maintenant, le soleil surgissait majestueusement de la mer. Ses rayons tombaient doux et chauds sur l'écume glacée, et la petite sirène ne sentait pas la mort. Elle voyait le clair soleil et, au-dessus d'elle, planaient des centaines de charmants êtres transparents. À travers eux, elle apercevait les voiles blanches du navire, les nuages roses du ciel, leurs voix étaient mélodieuses, mais si immatérielles qu'aucune oreille terrestre ne pouvait les capter, pas plus qu'aucun regard humain ne pouvait les voir. Sans elles, elles flottaient par leur seule légèreté à travers l'espace. La petite sirène sentit qu'elle avait un corps comme le leur, qui s'élevait de plus en plus haut au-dessus de l'écume. « Où vais-je ? » demanda-t-elle. Et sa voix, comme celle des autres êtres, était si immatérielle qu'aucune musique humaine ne peut l'exprimer. « Chez les filles de l'air, » répondirent-elles, « une sirène n'a pas d'âme immortelle, ne peut jamais en avoir, à moins de gagner l'amour d'un homme. C'est d'une volonté étrangère que dépend son existence éternelle. Les filles de l'air n'ont pas non plus d'âme immortelle, mais elles peuvent, par leurs bonnes actions, s'en créer une. Nous nous envolons vers les pays chauds où les effluves de la peste tuent les hommes. Nous y soufflons la fraîcheur. Nous répandons le parfum des fleurs dans l'atmosphère et leur arôme porte le réconfort et la guérison. Lorsque durant 300 ans nous nous sommes efforcés de faire le bien, tout le bien que nous pouvons, nous obtenons une âme immortelle et prenons part à l'éternelle félicité des hommes. Toi, pauvre petite sirène, tu as de tout cœur cherché le bien comme nous. Tu as souffert et supporté de souffrir. Tu t'es haussé jusqu'au monde des esprits de l'air. Maintenant, tu peux toi-même, par tes bonnes actions, te créer une âme immortelle dans 300 ans. Alors, la petite sirène leva ses bras transparents vers le soleil de Dieu et, pour la première fois, des larmes montèrent à ses yeux. Sur le bateau, la vie et le bruit avaient repris. Elle vit le prince et sa belle épouse la chercher de tous côtés. Elle les vit fixer tristement leurs regards sur l'écume dansante, comme s'ils avaient deviné qu'elle s'était précipitée dans les vagues. Invisible, elle baisa le front de l'époux, lui sourit et avec les autres filles de l'air, elle monta vers les nuages roses qui voguaient dans l'air. Dans 300 ans, nous entrerons ainsi au royaume de Dieu. Nous pouvons même y entrer avant, murmura l'une d'elles. Invisible, nous pénétrons dans les maisons des hommes où il y a des enfants. Et chaque fois que nous trouvons un enfant sage, qui donne de la joie à ses parents et mérite leur amour, Dieu raccourcit notre temps d'épreuve. Lorsque nous voltigeons à travers la chambre et que de bonheur nous sourions, l'enfant ne sait pas qu'un an nous est soustrait sur les 300, mais si nous trouvons un enfant cruel et méchant, il nous faut pleurer de chagrin, et chaque larme ajoute une journée à notre temps d'épreuve. Fin de la petite sirène par Hans Christian Andersen.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
This just in, hot off the bench press. Planet Fitness has added new strength equipment. Save $28 or more when you join today, and you can be one of the first to try it out. We're raising the bar with new benches, and our new hack squat will have you actually looking forward to leg day. Plus, we're still repping all of the best-in-class equipment we've always had, with most clubs open 24 hours, so you can work out your way on your time. So let's do this. Join Planet Fitness today and save $28 or more. Just $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 10th. See Home Club for details.